Un roi mythique, Gilgamesh. Gilgamesh est un roi mythique de la ville d'Uruk qui aurait régné vers moins de 1700. Son épopée écrite est un amalgame de diverses légendes orales. La version la plus achevée est celle retrouvée à Ninive dans la bibliothèque du roi du 7e siècle avant Jésus-Christ, Assurbanipal. Cette œuvre est universelle à un double titre. Elle fournit le premier récit du déluge qui sera repris dans la Bible et elle met en scène l'angoisse eschatologique, c'est-à-dire la peur de tout homme devant sa propre mort, impossible à éviter. Les épisodes les plus marquants sont le combat de Gilgamesh contre le taureau céleste, le désespoir tout humain et les larmes versées à la mort de son frère d'armes et ami Enkidu, la rencontre avec Utnapishtim, le Noé sumérien auquel les dieux ont accordé l'immortalité, la recherche de la plante d'immortalité au fond de la mer dévorée par un serpent dans un moment d'inattention. Un roi pour quatre régions. Roi conquérant, Hammurabi de Babylone hérite au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ d'un petit royaume qui, au fil des batailles, devient un empire couvrant la Mésopotamie. Il fixe sa capitale à Babylone, centre d'un vaste réseau urbain qui lui permet d'administrer son royaume avec sagesse. Les peuples soumis ont des langues et des coutumes différentes. Hammurabi, roi de Sumer et d'Akkad, roi des quatre régions, roi de l'univers, leur donne un code commun qui porte son nom.
Le saviez-vous ? Message codé. Le code d'Hammurabi figure sur une stèle découverte au cours des fouilles de Suse en 1901 et aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Il est rédigé en langue babylonienne, en caractère cunéiforme. Il comporte 3500 lignes déchiffrables, 282 sentences s'appliquant à des situations variées, vol, commerce, dette, coups et blessures, etc. Les formules évoquent toujours un cas précis et la conduite à tenir. Si un homme a porté contre un autre une accusation de meurtre sans en fournir la preuve, l'accusateur sera mis à mort. Le principe en est simple, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Les punitions vont du fouet, de l'arrachage de la langue, à l'exécution par le pal, le bûcher, la noyade. Mais ce code présente le mérite d'être appliqué à tous les sujets du roi, de s'imposer aux coutumes locales. C'est la première référence nationale en matière de loi.
Nabucodonosor II de Babylone, 604-562. Nabucodonosor II, roi de Babylone, rend à l'Empire son éclat en battant les Égyptiens. Il prend Jérusalem une première fois en 597, puis une seconde en 587. Détruit à cette occasion le temple de Salomon, déporte les habitants à Babylone. C'est l'épisode de l'exil dans l'Ancien Testament. Toujours plus haut, la tour de Babel. Grand bâtisseur, ce roi embellit Babylone, sa capitale, avec la porte d'Ishtar, le temple des Agiles dédié au dieu suprême Marduk, les jardins suspendus, et les Temenanki, la maison du fondement du ciel et de la terre, citée dans la Bible comme la tour de Babel, appellation qui a subsisté. C'est une ziggourate, une tour à étages de 90 mètres composée d'une base surmontée d'un certain nombre de plateformes superposées. Elle est située à côté de la voie processionnelle et du temple du dieu Marduk, les Agiles. Découverte en juin 1913, il n'en reste presque rien. Ses dimensions sont connues d'après un texte gravé sur une tablette d'argile conservée au musée du Louvre, la tablette de les Agiles, datée du 12 décembre 229 avant Jésus-Christ et rédigée dans la ville d'Uruk. Hérodote, qui vit la tour au 5e siècle avant notre ère, en fournit une description. Mais la tour de Babel est surtout connue par un épisode du premier livre de la Bible, la Genèse. Il relate la colère de Dieu contre les hommes qui ont l'arrogance de vouloir construire un édifice s'élevant jusqu'à lui, c'est-à-dire au ciel. Pour les punir de leur témérité, il efface de leur souvenir la langue universelle et leur donne des langues différentes. Incapables désormais de se comprendre, ils ne peuvent plus coordonner les travaux et abandonnent leurs projets. Le mot Babel a deux sens. Il désigne d'une part la ville de Babylone, où se trouve la tour, et d'autre part il signifie « mêler », confondre d'après son origine hébraïque « B-L-L ». La tour de Babel est donc le lieu où se mêlent et se confondent les langues par la volonté divine.
Le saviez-vous? Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone sont en réalité les jardins en terrasse du palais de Nabucodonosor II, s'élevant graduellement de 23 à 91 mètres. Leur forme était destinée à rappeler à la reine Amytis les collines verdoyantes de son pays natal, la Médie, l'Iran actuel. Pourtant, leur création est souvent attribuée à une reine légendaire d'Assyrie et de Babylonie, Sémiramis. Selon Strabon, dans sa géographie, livre 16, chapitres 1 à 5, ils sont posés l'un sur l'autre à l'aide de voûtes empilées comme des cubes. Pour Diodore de Sicile, dans le livre de 2, de sa bibliothèque historique, il s'agit de plateformes soutenues par des colonnes. Classée déjà dans l'Antiquité comme l'une des sept merveilles du monde, on ne sait quelle pourrait être leur localisation actuelle.
La société mésopotamienne. Dans toute la Mésopotamie, c'est le souverain qui octroie les différents pouvoirs. Son palais symbolise le centre administratif suprême et sa fonction est de constituer un lien entre le divin et l'humain en administrant l'ensemble de la population grâce à ce pouvoir. Il exerce en principe un droit de propriété sur tous les biens et sur toutes les terres. Le roi et l'administration royale. Le roi mésopotamien est donc à la fois chef militaire et administrateur. Il est aisé de trouver des rapports entre la royauté mésopotamienne et la royauté égyptienne, bien que dans cette dernière les rois sont dieux eux-mêmes. Le roi mésopotamien n'est que le représentant de la divinité, et son pouvoir s'étend donc à tous les domaines de la vie collective. L'appareil administratif se compose de dignitaires, de notables locaux et d'un immense personnel. Son recrutement se fait dans l'ensemble des couches sociales de la population. Entrer au service du souverain est considéré comme un avantage puisqu'il procure aux bénéficiaires des revenus matériels durables, des prestations et des gratifications qui lui sont versées pendant toute sa vie. L'absence de moyens techniques développés contraint l'administration à employer une main-d'œuvre importante, notamment pour les travaux d'irrigation ou pour les travaux agricoles. Libre et esclave. En fait, la société mésopotamienne ne nous est bien connue qu'à partir du siècle d'Amourabi, grâce à son code qui permet d'interpréter d'innombrables documents émanant du roi d'Ur, de celui d'Eshouna ou des rois du second millénaire. Le code d'Amourabi différencie trois types d'hommes. L'homme libre, l'homme qui se prosterne, le subalterne. L'esclave, propriété d'un autre homme, juridiquement assimilé à un bien immobilier. L'esclavage ne joue pas un rôle important dans ce type de système économique. Les esclaves, qui sont en général des captifs de guerre, n'apparaissent que rarement dans les listes du personnel. On doit les distinguer des serviteurs dont la vie est liée à celle de leur maître. La famille où chacun a sa place. Les droits de la femme sont protégés juridiquement. Elle dispose de ses biens propres qu'elle administre librement. Elle peut exercer de nombreuses professions et avoir parfois même d'importantes responsabilités. Dans le mariage, elle est subordonnée à l'autorité de son mari. Après la mort de celui-ci, elle a le droit de gérer et de défendre les intérêts de ses héritiers. Le code fixe non seulement les détails de la succession, mais aussi celui du cas où la femme serait répudiée injustement. Le chef de famille reste le père et il transmet à sa mort ses pouvoirs, d'abord à ses fils ou, à défaut d'héritier mâle, à sa fille. Le mariage est monogame. Une seule femme peut prétendre au titre d'épouse légitime. Pourtant, les souverains jouissent en ce domaine de certains privilèges, dont la polygamie. La religion des Mésopotamiens. La religion est entièrement constituée à Sumer dès le troisième millénaire. Elle nous est connue par l'archéologie et les textes cunéiformes. Chaque cité mésopotamienne possède son propre dieu, chaque ville formant un État en soi. Les dieux principaux sont assistés de dieux secondaires. On peut dégager quelques grandes caractéristiques de la religion mésopotamienne. Le polythéisme, un dieu pour chaque ville régnant avec son épouse et ses enfants, les villes de Houma et Nippur comptent à la troisième dynastie d'Ur 638 noms différents de divinités. L'anthropomorphisme des divinités, représentées sous la forme humaine, elles agissent comme telles, pourtant elles sont immortelles et le héros Gilgamesh ne parviendra jamais à l'immortalité malgré toutes ses ruses, le serpent avalant avant lui la plante de la vie éternelle. L'attribution d'un chiffre à chaque dieu. À Anu, le dieu des dieux, le chiffre 60, nombre parfait puisqu'il inclut les systèmes sexagésimal et décimal employés parallèlement par les Mésopotamiens. Même si chaque ville honore son dieu local, trois grands dieux reçoivent un culte dans l'ensemble du pays. An-Anu, Anu le suprême, dieu des cieux, père des dieux, habite au ciel, et son idéogramme représente l'étoile, déterminatif employé devant le nom de tous les dieux. Enlil, le seigneur du vent et dieu de l'atmosphère. Nergal, le dieu des enfers, à l'origine dieu solaire malfaisant.
Le saviez-vous ? 7,5. Les fêtes sont nombreuses pour rendre hommage aux dieux. Sacrifices d'animaux, offrandes de fruits, processions, prières sont les différentes actions effectuées chaque jour par un clergé très hiérarchisé, véritable intermédiaire entre le croyant et la divinité. Inséparable de la religion officielle, la magie sert à protéger des démons malfaisants. Les sept. Les groupes de sept. Afin d'y parvenir, litanies et psaumes sont récités. On pratique aussi le contre-envoûtement sur des figurines que l'on jette au feu. En dépit de tout cela, la religion mésopotamienne périt plus tôt que celle d'Égypte, et c'est un peu avant le premier siècle de notre ère.
L'Égypte. Connue depuis Hérodote comme le don du Nil, l'Égypte est un long ruban fertile de plus de 1000 km, mais seulement cultivable sur une toute petite largeur de 1 à 2 km. C'est pourtant sur cette mince bande que toute l'histoire égyptienne va se dérouler. Heureusement pour les égyptologues, au long de plusieurs millénaires, la civilisation égyptienne présente une très grande unité. Remarquable unité politique, tout d'abord. En dehors des périodes de troubles, appelées périodes intermédiaires, les dynasties se succèdent avec une grande régularité, parfois plusieurs sur différentes parties du pays, mais le plus souvent en le gouvernant tout entier. Unité de la langue et de la culture ensuite pratiquée jusqu'à la période romaine. Unité enfin derrière l'apparente multiplication des dieux dans la volonté de se les concilier pour couler des jours heureux au bord du Nil. Les grands rois d'Égypte. C'est sous le règne de Thoutmôsis III et de Ramsès II que l'Égypte connaît sa plus grande extension géographique. Elle est la première et redoutée puissance méditerranéenne. Tous leurs successeurs tenteront en vain de les égaler. Seul Alexandre le Grand les dépasse, un Alexandre égyptien au point de se faire reconnaître comme fils du dieu Amon par son oracle et d'être couronné pharaon. Thoutmôsis III 1479-1425. À la mort de son père, Thoutmôsis II, il est contraint de partager le trône avec sa tante Hatshepsut, qui est aussi la femme de son père sans être sa mère. Quand cette dernière disparaît des textes et des monuments officiels en l'an 22 de son règne, Thoutmôsis III peut gouverner seul. Ses exploits militaires, qui le font parfois comparer à Napoléon, sont décrits sur le mur des annales qui entoure le sanctuaire d'Amon à Karnak. Il effectue 14 campagnes au cours desquelles il écrase tous les voisins de l'Égypte et impose sa souveraineté depuis la quatrième cataracte du Nil au sud, l'actuel Soudan, jusqu'à l'Euphrate, l'actuel Irak. Ramsès II, 1279-1212. Ramsès II, troisième pharaon de la 19e dynastie, veut donner à cette dernière un lustre et un éclat incontestables. Pour ce faire, il soigne sa propre légende militaire de son vivant. Il est célèbre pour ses 20 campagnes et ses victoires répétées sur les Hittites, peuple occupant en partie l'actuelle Turquie, l'Anatolie. Sa longévité exceptionnelle lui permet également de marquer fortement l'histoire égyptienne. On pourrait supposer qu'un règne de 67 ans semble suffisant pour le faire, mais Ramsès n'est pas de cet avis. De son vivant, il est déjà célèbre pour ses victoires, tout autant que pour son art de les mettre en scène. Il n'hésite pas à utiliser les monuments construits par ses prédécesseurs pour se les attribuer. La méthode d'appropriation est simple, il suffit de marteler le nom du pharaon figurant sur le monument et de le remplacer par celui de Ramsès II. Un visiteur peu averti pourrait ainsi croire que tous les monuments d'Égypte ont été bâtis par Ramsès II, seul ou peu s'en faut. Les grandes reines. L'Égypte met souvent en avant la beauté de ses reines. Néfertiti, grande épouse royale d'Amenon fils IV, Akhenaton, ou Néfertari, grande épouse royale de Ramsès II, mais elle laisse trop dans l'ombre les femmes politiques. Pourtant, outre les grandes épouses royales dont l'influence politique est connue, comme la reine Tiyi, femme du pharaon Amenophis III au XIVe siècle avant Jésus-Christ, de véritables pharaons ont exercé le pouvoir directement et non par l'entremise d'un homme. Deux exemples sont éclatants. Hatshepsut, morte en -1458 à l'âge d'or de l'Égypte, se fait couronner puis représenter sur les façades des temples comme un pharaon véritable avec la barbe postiche des rois. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII, dernière de ce nom, est d'origine grecque, comme tous les souverains de la dynastie des Ptolémées. Mais elle demeure, par sa volonté de maintenir une Égypte indépendante, la plus égyptienne des souveraines du pays des deux terres. Hatshepsut, 1479-1458. Fille de Thoutmôsis Ier, elle épouse son frère Thoutmôsis II et, à sa mort, devient régente au nom de son neveu et beau-fils, Thoutmôsis III, avec l'aide du clergé d'Amon. Peu après, elle se proclame pharaon, adopte les 5 noms de la titulature complète et se fait représenter comme roi sur les monuments. Son règne est marqué par une expédition au pays de Punt, l'actuelle Somalie, ou le Yémen, qui ramène or, défense d'ivoire, arbre à encens, singes, léopards, plumes d'autruche. Elle fait édifier comme demeure d'éternité le temple de Deir el-Bahari. C'est dans ce cirque rocheux que la reine Hatshepsut fait édifier son temple funéraire, le temple des millions d'années comme le nommaient les Égyptiens. Destiné au culte de la reine, il est composé de 3 terrasses ornées de portiques, de chapelles dédiées à Hathor, à Anubis, à Hatshepsut divinisée, à Amon-Ré. La mort de sa fille favorite, Néferouré, semble annoncer le déclin du règne et sa fin dans des circonstances inconnues. Cléopâtre VII, 69-30 avant Jésus-Christ. La plus célèbre femme de l'Antiquité est fille de Ptolémée XII. Son éducation est soignée. Elle parle couramment plusieurs langues, outre le grec et l'égyptien. Elle épouse successivement ses 2 frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, puis séduit César et Marc-Antoine. Son règne personnel dure de 51 à 30 avant Jésus-Christ. Après la défaite navale d'Axium, en septembre 31 avant Jésus-Christ, où Marc-Antoine et la flotte égyptienne sont vaincus par celle d'Octave Auguste, les 2 amants retournent en Égypte. Au mois d'août, en 30 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine apprend le supposé suicide de Cléopâtre et se jette sur son glaive qui le transperce. Éploré, Cléopâtre fait porter le corps dans son tombeau personnel et s'y donne la mort en plongeant les mains dans un panier de figues cachant des serpents venimeux. L'Égypte perd son indépendance et devient province romaine. La société égyptienne. Vers la fin du premier millénaire, le mot pharaon apparaît parmi le vocabulaire égyptien. Il signifie « père Aha », soit « la grande maison », nom qui se perpétuera dans l'Empire ottoman avec le terme de la sublime porte. Le pharaon, un dieu parmi les dieux. Par sa naissance tout d'abord, car il est issu d'une hiérogamie ou mariage divin. On voit sur les murs des temples la mère du pharaon recevoir l'amour d'un dieu qui a pris l'apparence de son époux. La légitimité royale se transmet par les femmes, Ainsi, la naissance d'Amenophis III est représentée sur une façade du temple de Louxor, où Amon-Ré, roi des dieux, père du futur souverain, ordonne aux dieux de préparer cette venue au monde. Le dieu potier, à tête de bélier, Khnoum, façonne le pharaon sur son tour. La déesse grenouille Heket lui donne le souffle de la vie. Un conte du papyrus Ouescar, du nom du propriétaire, raconte comment les rois de la cinquième dynastie ont assuré la transmission de leur pouvoir. À l'origine, la femme du prêtre d'Héliopolis reçoit la visite du dieu Ré et les rois qui vont en naître puis se succéder prennent le nom de fils de Ré pour souligner leur filiation divine. Tous les dieux alors se réunissent pour célébrer la naissance d'un nouveau dieu. Le terme de Sa-Ré, fils de Ré, devient même le cinquième titre de la titulature du pharaon. Par sa mort également, Pharaon est un dieu qui quitte son enveloppe charnelle pour retrouver son état divin éternel. Dans le roman de Sinoué, considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature égyptienne, utilisé comme classique pour former scribes et lettrés, nous est racontée la mort d'Amenemhat Ier, fondateur de la 12e dynastie. L'an 30, le 3e mois de l'inondation, le 7e jour entra. Il fut enlevé au soleil, se trouva uni au disque solaire. Son corps s'absorba à celui qui l'a fait. Le pharaon mort est appelé Dieu car il gagne les rayons célestes et s'unit au principe dont il est issu.